Éternel, comme l'eau et comme l'air, c'est ainsi que Borès écrivait Buenos Aires. Éternel, alors l'exploration continue des voix, des musiques de la ville, comme le tango de Carlos Gardel, mon Buenos Aires bien-aimé. Seconde escale, Buenos Aires, ville-monde, bon voyage sur France Culture sans frontières.
Ville monde, Buenos Aires.
C'est une grande ville quand même, hein. Moi que je rentre à Paris, je rentre au village pour moi.
Mi Buenos Aires querido. Andrea Cohen, Gaël Gillon, Benjamin Thuot. Samedi 14 novembre, quartier de la Boca, Théâtre Almirante Brown.
Ahora quiero invitar.
J'invite les musiciens qui vont rendre hommage à Leopoldo Federico à monter sur scène. Pendant qu'il se prépare, je veux saluer la présence de France Culture qui enregistre cet hommage. Et au passage, je veux témoigner notre solidarité au peuple de France et à la République française pour le terrible attentat dont ils ont souffert. Notre association est solidaire du peuple français dans ces terribles circonstances. Merci d'être venu. Et maintenant, merci d'applaudir l'ensemble des six bandoneons, Sueño de Bandoneón, qui va jouer pour la première fois au Festival de la République de la Boca.
Notre séjour à Buenos Aires s'est déroulé du 13 au 19 novembre 2015, entre les deux tours de la dernière élection présidentielle. Moment de flottement qui a précédé un changement politique dans le pays, marqué par un virage à droite et un retour du néolibéralisme. Une vieille valse des années 40 parlait de Buenos Aires comme de la ville aux 100 quartiers. Los 100 barrios porteños. Chacun avec son histoire, son caractère, ses images et ses sons.
La nuit est quelque chose de particulier à Buenos Aires. Il y a des choses qui se passent dans la nuit et il y a une façon de la plupart des habitants, de vivre la nuit comme une possibilité, comme quelque chose, qu'il y a des choses qui peuvent se passer.
C'est pas du tout un quartier de théâtre, c'est un quartier de tango.
Oui, il y a un tango très célèbre, Sul, qui dit San Juan y Boedo Antiguo.
San Juan y Boedo, voilà, c'est à deux blocs d'ici. Et ici, donc c'est un quartier populaire, quoi. On est loin du Corrientes, qui est l'avenue avec tout le théâtre commercial, de l'Abasto, qui est un quartier où il y a tout, un peu toutes les salles indépendantes de théâtre. Ici, on est à Boedo.
Vendredi 13 novembre 2015, quartier de Boedo, théâtre Timbre 4.
Donc, je suis Maxime Seger, je suis français, ça fait 10 ans que je vis ici à Buenos Aires. Et je suis donc le producteur de la compagnie Timbre 4, Timbre 4. Voilà, Timbre 4, c'est une école de théâtre, c'est un théâtre avec deux salles et puis c'est une compagnie.
Pourquoi tu es venu vivre à Buenos Aires ?
Alors, je suis venu à Buenos Aires un peu par hasard. J'ai toujours voulu être comédien, mais je travaillais en finance quand j'étais en Espagne et en France. Et quand j'arrive ici, je vois des affiches de classes de théâtre, des affiches de théâtre, des affiches de... Enfin, beaucoup de choses relationnées avec le théâtre. Et je dis, c'est incroyable, parce que c'est une ville de théâtre. Et beaucoup de monde vit, enfin, travaille dans le théâtre, beaucoup de monde vont voir du théâtre. C'est incroyable, enfin, l'omniprésence du théâtre ici à Buenos Aires. Et du coup, et c'est vrai que c'est assez enivrant, quoi. Et donc je suis resté. J'ai commencé à travailler pour le Festival de Buenos Aires, de théâtre. Et puis petit à petit, voilà, j'ai fait ma vie.
Claudio Tolcachir, metteur en scène, directeur de la compagnie.
Estamos en el barrio de Boedo.
On est dans le quartier de Boedo.
Hace unos 15 años fundamos.
Dans lequel, il y a une quinzaine d'années, on a fondé un théâtre là où j'habitais. Dans une maison typique qu'on appelle Chorizo. Ce sont des maisons en enfilade avec un long couloir. Je vivais dans une espèce de nef, un hangar qui était une fabrique de chaussons. Là donc, on a fondé notre théâtre qui s'appelle Timbre 4, sonnette 4, simplement parce que quand le public venait voir un spectacle, il devait appuyer sur la sonnette numéro 4.
Ahí empezó nuestro grupo como sala, ahí estrenamos.
C'est dans cette salle qui pouvait accueillir 50 personnes qu'on a joué pour la première fois beaucoup de nos pièces, parmi lesquelles l'omission de la famille Coleman, qu'on a ensuite joué en France et dans quantité de pays.
C'est quoi Buenos Aires pour toi ?
Pour moi, c'est la première image que j'ai eue, c'est cette agilité, cette habileté qu'ont les Argentins. Ils sont extrêmement rapides, ils font 10 choses à la fois. Tu vois, c'est très très surprenant. Quoi. Pour moi, c'est le mouvement. Quoi. C'est une ville en mouvement tout le temps. Mais pas dans le mouvement, voilà, une ville théâtre en mouvement, ville en mouvement. Non, c'est des gens qui sont très 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 vite, qui sont obligés d'aller vite, qui sont obligés de s'adapter. Parce que leur environnement... bouge très vite. Ici, on a une inflation de 25-30%. En fait, t'imagines, les prix, rien que le fait de mettre les prix, tous les 10 ans, tu as une crise. Enfin, tu vois, c'était obligé de te mettre au diapason d'une ville que tu sens en évolution tout le temps, qui va bouger, qui s'adapte à un nouveau environnement, un nouvel contexte politique, économique. Boum, on revient en arrière, on va en avant. Et voilà, donc tu arrives là avec ton petit schéma européen, tu dis waouh, ça va très, très, très vite. Et en même temps, c'est fascinant, quoi. Tu dis, ok, j'ai beaucoup à apprendre. Je pense que tout le monde devrait faire une année au moins dans sa formation humaine à Buenos Aires. Venir s'installer, vivre, sentir, renifler l'air de Buenos Aires.
Pour moi, Buenos Aires, en t'écoutant, il me vient à l'esprit que c'est une ville résiliente et qui ne cesse de se régénérer, très contradictoire, très puissante, très vivante, où cohabitent la droite politique et l'espace culturel sans doute le plus puissant du pays. Avec le théâtre d'avant-garde, beaucoup de troupes, des concerts, des expositions.
Con conciertos, con y sobre todo con muchos grupos históricamente, digamos, el teatro independiente tiene una historia.
Historiquement, le théâtre indépendant a 100 ans d'existence à Buenos Aires. Ici, il y a toujours eu une avant-garde culturelle.
Fue el Ditela en otros momentos, o fue la vanguardia cultural.
Après la très grande crise de 2001, quantité de troupes de théâtre, de musique, de danse, des plasticiens, des groupes politiques et sociaux se sont rassemblés. Comme le pays se brisait, s'effondrait, beaucoup de groupes se sont unis pour construire leur propre histoire. L'histoire de Timbre 4 est la même que celle de nombreux groupes face à la crise. Certains sont partis tenter leur chance ailleurs parce qu'ils se sont sentis chassés de leur propre pays, une fois de plus. D'autres, comme nous, n'ont pas pu ou pas voulu le faire. Avec nos amis, on s'est mis chez moi à peindre, à souder, à faire un théâtre au milieu des manifestations et des concerts de casseroles pendant cette semaine mémorable qui a vu défiler 7 présidents. Au milieu de tout ça, Nous, on s'est mis à construire un théâtre. Non pour faire quelque chose d'héroïque, mais je crois comme une planche de salut, en se disant tout ce que me propose le monde, c'est la désolation. Il ne me reste que l'amour et la foi de construire quelque chose avec les gens que j'aime. Buenos Aires est peuplé de ces expériences d'autogestion. Je crois que c'est une ville autogestionnaire.
Jeudi 19 novembre 2015, quartier de Palermo. Dans son cabinet, Graciela Bardejón, psychanalyste.
Il y a quelque chose qui nous représente assez ici, c'est la chaleur dans le contact. Et nous sommes quelque part beaucoup plus tactiles dans le contact entre les personnes. Ça, c'est quelque chose de très culturel. Et vous avez vu le tango que les gens aiment tellement. Le tango, quelque chose de très central dans le tango, c'est l'abrazo. Et l'abrazo, c'est quelque chose de très argentin. C'est très chaleureux. C'est une attitude entre les personnes, des fois physique et des fois émotionnelle, disons. Non, nous faisons partie d'une culture qui a les ressentis beaucoup plus en évidence que dans d'autres cultures. Le porteño, je pense, il est expressif, il est souriant, il est chaleureux dans le contact. C'est ce que les Européens retrouvent ici, non ? Il y en a qui, avec le soleil que nous avons dans la ville, et ils retrouvent le soleil. Et aussi, le porteño est quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête. Donc, c'est gai, non ? C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à l'amitié. Alors ici, on a el día del amigo, chose qui est une fois par an, c'est le jour de l'amitié, non ? Qui est quelque chose de très important. On donne beaucoup d'importance à la famille et à la vie familiale.
Buenos Aires, supongo que todas las ciudades, pero como esta es la mía y este barrio en particular, este es un barrio interesante porque es un barrio antiguo.
Boedo est un quartier intéressant parce qu'il est ancien, avec de grandes maisons anciennes, de grands espaces. Il ressemble beaucoup à ce qu'était Palerme ou d'autres quartiers qui se sont maintenant modernisés, où les tours ont remplacé les théâtres et où les maisons ont été acquises et rénovées par des jeunes. Ici vivent encore des vieux. C'est un quartier authentique et en mouvement. Pour moi, sortir dans la rue est merveilleux. Aller dans un bar, retrouver les voisins, ce sont eux les personnages de mes pièces. Ils sont un peu comme tombés du ciel, un peu différents des gens à succès qu'on voit à la télévision. Ils sont un peu pathétiques, un peu grotesques, tragicomiques, comme je dois l'être moi-même, parce que je me reconnais en eux. Je vais te dire, pour moi, la plus grande stimulation, c'est de sortir dans les rues de ce quartier et de les regarder. Parce que c'est un cadeau permanent d'humanité au bord de la caricature. Ils sont pleins de vérité, profondément vrais. Notre théâtre se fait dans le quartier. Ce que tu vois à l'extérieur dans le quartier peut se retrouver à l'intérieur de notre théâtre. Cette union de la rue et de la scène, chacun avec son esthétique, avec sa théâtralité, me paraît très intéressant. Moi, je ne ferais pas ce théâtre-là si je travaillais dans le théâtre officiel, si je m'y étais formé, ou si mon théâtre se trouvait à Palermo ou à Colegiales. Je ne sais pas si je ferais le même théâtre. Mon théâtre est nourri par l'air que je respire, qui est l'air de ce quartier.
Porque esta fiesta en la plaza vecino es un disparate. Muchachas, señores, escuchen atentamente. Si se anima también canten, somos del barrio de Flores. Y para juntarnos sobre motivos, colores y amores.
Samedi 14 novembre 2015, quartier de Flores, dans un jardin public. Alejandro Chab, directeur de Alma Mate, troupe de théâtre communautaire. Alma Mate est née en 2002 pendant la grande crise économique et sociale qui a secoué l'Argentine à cette époque.
On est à la place des journalistes, une place de Buenos Aires, dans le quartier de Flores. Nous faisons du théâtre communautaire. C'est un théâtre qui est né en Argentine, un théâtre de voisins, par les voisins et pour les voisins.
Creemos que el arte, en este caso el teatro, es un derecho y un derecho de todos, y que no tiene secretos y que
nous croyons que l'art est un droit pour tous, qu'il n'a pas de secret et qu'il s'agit d'apprendre comme n'importe quelle autre chose et qu'il suffit d'avoir envie de faire du théâtre. Nous faisons tout dans ce jardin public depuis la création de la pièce, les répétitions, les fausses routes, les réussites, jusqu'aux représentations. La pièce qu'on joue maintenant est la troisième.
En general, lo que tratamos de percibir, y por eso son teatros territoriales estos, tiene que mucho que ver con el barrio. Tratamos de percibir qué está ocurriendo.
En general, on essaie de percevoir ce qui se passe dans le quartier pour en tirer un thème ou une idée.
Esta obra se llama Aviso de obra en construcción. Acá cuando tiran las casas, como está todo allá los carteles.
Cette pièce s'appelle Avis de travaux, comme les affiches qui annoncent les destructions des vieilles maisons.
Pero se está demoliendo lo que se puede demoler y lo que no se puede.
Tout Buenos Aires est en train d'être démoli. Ils démolissent tout, sans distinction. Il y a des maisons historiques qu'on ne devrait pas démolir et on le fait quand même.
Flores es uno de los barrios que cuando nosotros
dans le quartier de Flores, quand on a monté cette pièce il y a 4 ans, les démolitions étaient en plein essor.
En pleno auge las demoliciones acá. Entonces
ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer au quartier ce qu'il est en train de vivre et de le montrer d'une manière théâtrale, en le jouant. Ici, s'il fait beau, comme par exemple aujourd'hui, on peut toucher 150 à 200 personnes. Dans les moments de grande crise, comme 2002, le tissu social s'assouplit. À ce moment-là, le quartier s'est ouvert. Cette place était une source bouillonnante. Maintenant, il faut beaucoup se battre pour que les gens reviennent dans la rue et n'aient pas peur à cause de tous les discours sur l'insécurité. Heureusement, ici, nous sommes très nombreux.
Dimanche 15 novembre 2015. Quartier de San Telmo. Bar El Hipopótamo. Carlos Gaveta, journaliste.
San Telmo, c'est le quartier original de la ville. La ville de Buenos Aires a été fondée ici, dans ce quartier. D'ailleurs, les Anglais, en 1806-1807, lors de deux invasions anglaises qui ont suivi l'Argentine, ont débarqué ici, en face de là où l'on est. On est à 500-600 mètres du port. Et à l'époque, les Anglais ont débarqué là. C'est pour cela que la rue là où l'on est, elle s'appelle Defensa, Défense. Là, tout le long du 19e siècle et bien avant, le centre-ville était là, c'était le. Mais à la moitié du 19e, un peu avant, autour de 1840 par là, et s'est déclenchée une peste de fièvre jaune. Et cette peste, cette épidémie, a fait que la plupart des gens déménagent du quartier vers ce qu'à l'époque était de fermes. De fermes, c'était la campagne, quoi. Mais aujourd'hui, ce sont les quartiers chics de Buenos Aires, Recoleta, Belgrano, Palermo, etc., etc., etc. Et on voit bien d'ailleurs dans certaines rues de Saint-Elmo la richesse des bâtiments, des vieilles maisons, des petits palais en style français, italien, anglais, etc. etc. Le quartier de Saint-Elmo est plein de belles maisons et des petits palais qui sont encore très très beaux. C'est le vieux quartier de Buenos Aires. mais en même temps il est un mélange de populaire, tourisme, classe moyenne, intellectuelle, c'est en quelque sorte un Soho. Il y a une vie nocturne assez importante, mais il y a aussi pendant la journée une vie commerciale très 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 active.
Parfois, on me demande s'il y a un rapport entre le fait que Buenos Aires est tant de théâtre et le fait qu'il y ait tant de psychanalystes. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose de commun dans le théâtre et la psychanalyse, même s'ils sont totalement différents. Dans les deux, on parle de soi, on réfléchit sur soi, on prend des distances, on se pense, on retrouve comme un travail d'identité qui devient plus pressant pendant les crises. Je crois aussi que nous, on a eu la chance d'hériter d'une masse de public curieux. Des gens qui allaient au ciné-club ou qui allaient au théâtre ouvert pendant la dictature. C'est un public curieux. J'ouvre une salle à Boedo, qui est un quartier inconnu d'énormément de gens, parce qu'il n'est pas dans le centre. Une troupe absolument inconnue ouvre une salle dans un quartier inconnu, sans aucune vedette, sans aucune enseigne. On n'en a toujours pas. Et les gens viennent. Ils venaient avec l'article de journal découpé à la main, à n'importe quelle heure. Comme moi, je vivais là, ils sonnaient à la porte pour savoir s'il y avait un théâtre ici, et je leur montrais le lieu. Je ne sais pas si ça peut arriver dans une autre ville que tu ouvres un théâtre à un endroit quelconque et que les gens viennent. Les gens sont habitués à ce qu'il puisse se passer quelque chose n'importe où.
Buenos Aires est la ville du développement de la psychanalyse, non ? L'école argentine est très importante, mais ce n'est pas ça ce qui appelle tellement l'attention, parce que par exemple en France, il y a des psychanalystes qui ont écrit des choses hyper importantes en psychanalyse et qui sont très suivies ici. Mais la grosse différence, c'est la place que la psychanalyse occupe pour la population. Parce que nous avons un regard très positif sur tout ce qui est psy ici en Argentine. Et ici, c'est même bien vu quand quelqu'un dit « Ah, moi, je vais chez le psy ». Et dans les médias, partout, tout le monde raconte qu'il va chez le psy. Et on sait que n'importe quelle difficulté qu'on a, on peut y aller. Difficultés de couple, de famille, les enfants, soi-même, des choses qu'on souhaiterait changer de la personnalité et qu'autrement, on ne saurait pas comment faire. Mais c'est vraiment très surprenant comment ici la population est tellement partante. Et on nous pose souvent cette question. L'une des choses qu'on se dit, c'est que l'Argentine est un pays d'immigration. Et on suppose qu'il y a un certain fond mélancolique chez beaucoup, nombreux Argentins qu'on retrouve dans le tango. On se dit, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être que les Argentins ont l'habitude de se remettre en question, de chercher ce qui ne va pas en eux, d'essayer de le changer.
Un Argentin, c'est un Italien qui parle espagnol, qui s'habille comme un Anglais et qui se prend par un Français. Non ? Et bon, ça c'est juste parce qu'on est un mélange. On a hérité des Italiens la gestualité, on parle en haute voix, on bouge beaucoup, on fait des blagues, etc. Alors on a hérité ça, mais en même temps, on est un pays qui a été, le long de presque toute son histoire, le premier pays en alphabétisation en Amérique latine, les meilleures universités, la meilleure école. Nous avons l'enseignement public, laïque, gratuit, obligatoire et universel. depuis 1880.
C'est une ville qui, à notre grande surprise, peut élire une femme comme présidente ou accepter le mariage pour tous. Et en même temps, où se produisent des actions violentes antisémites dans l'un des quartiers. C'est une ville où tout arrive. Mais je crois qu'il y a une grande liberté, surtout parce que les gens l'assument. C'est quelque chose de très particulier. Nous aussi, on a pu faire ce théâtre parce qu'il n'y avait pas trop de lois qui en limitaient la construction. Mais maintenant, la ville s'organise davantage et il devient plus difficile de provoquer des surprises pour étonner les gens, parce que tout doit être plus organisé. Je veux dire que si quelqu'un invente un marché de vêtements à la maison ou une exposition de peinture dans une cave, si quelqu'un se met à jouer quelque part, tous reçoivent une réponse du public. C'est ça que j'ai vécu. J'ai vu avec quelle passion les gens accompagnent un projet indépendant en autogestion, comment ils se l'approprient et lui portent une affection particulière. Nous autres qui vivons du public, nous sommes très reconnaissants d'habiter dans une ville avec des gens qui ont un tel enthousiasme pour vivre des expériences alternatives.
Dimanche 15 novembre 2015, quartier Saint-Nicolas, centre culturel Kirchner. Juan Ortiz de Zárate, compositeur, coordinateur du secteur musique contemporaine du ministère de la Culture.
Nous sommes actuellement dans le centre culturel Kirchner, très nouveau centre culturel, un des plus grands centres culturels du monde pratiquement, en tout cas le plus grand de l'Amérique latine. 100 000 mètres carrés où on peut y avoir toutes les manifestations culturelles possibles, concerts, expositions, et peintures, installations, théâtre, et danse contemporaine, tout dans un seul endroit, disons, non? Et toutes les activités culturelles sont gratuites. C'est une politique du ministère, non?
Est-ce que c'est un public varié?
Et c'est un public, la plupart des fois, un public nouveau pour la culture. C'est très bon, très bon. Il y a beaucoup de gens qui viennent simplement parce qu'il y a un nouveau centre culturel et ils vont savoir ce qui se passe ici. Et s'il y a un concert, ils entrent en concert même sans savoir ce qu'ils vont écouter. Ça me passe, moi, dans un concert de musique contemporaine, que c'est très dur d'écouter pour des gens qui ne connaissent pas la langue, le langage contemporain, non? Maintenant, il y a un concert de guitare, guitare du monde.
On va aller,
si tu veux, on peut
oui, oui,
y aller là.
Oui, bien sûr, on va y aller.
Quartier Saint-Nicolas, à son domicile, Noé Gittrick, poète et essayiste.
La nuit a une certaine séduction à Buenos Aires. Il y a des choses qui se passent. Et samedi dernier, sans aller trop loin, on a été au Théâtre Colón pour. Il y a eu un concert de musique contemporaine. Nous avait invité la violoniste du principal.
Premier violon.
Oui, le premier violon qui est nommé. À la fin du concert, on est allé à un restaurant où tout le monde va après le colo. Il y a une ambiance dans ces restaurants. Même les maîtres et les garçons des tables ont une espèce de mouvement avec les gens. Il y a quelque chose qui se passe qui nous rend à la fois méfiants et aussi confiants. Les deux choses en même temps. On confie et on se méfie. Alors, notre ami, la violoniste, il était avec nous, nous étions 5 ou 6 là, et à côté, il y avait une amie. C'était son anniversaire, une amie écrivain. Alors, mon ami, le violoniste, a sorti le violon et a joué une petite pièce de Mozart qui a résonné dans cette ambiance d'une façon telle que le reste des gens qui étaient là ne pouvaient pas croire ce qui s'est passé. Pour moi, c'était un épisode très significatif. Mais des choses qui peuvent se passer dans cette ville, dans cette ambiance surtout, et au centre de la ville, peut-être pas ailleurs, mais enfin, ça arrive.
Il n'y a pas une correspondance entre le pouvoir économique de la nation, disons, et l'activité culturelle de Buenos Aires, non? Il y a cet impossible d'y aller à tous les concerts, à toutes les œuvres de théâtre, et même dans la musique contemporaine, non? Il y a 3 cycles d'opéras contemporains parallèles annuels, non? Quand je le dis à mes amis de l'extérieur, ils ne peuvent qu'à le croire.
Comment tu l'expliques? Est-ce que tu as une explication?
Et je crois que c'est une question de tradition. Et Buenos Aires, Argentine, mais Buenos Aires, non, c'est un pays qui a reçu de l'immigration européenne il y a 2 siècles, non. Ils ont amené une culture de gens qui venaient de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de la Pologne, qui ont amené une sorte d'appétit pour la culture, non.
Quartier de Caballito, Parque Rivadavia.
Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Poleman, soy músico.
Je m'appelle Alejandro Poleman, je suis un musicien du Rio de la Plata.
Tango,
c'est-à-dire que je joue de la musique du Rio de la Plata. Tango, candombe, murga, milonga, toutes ces musiques de la région. Je suis aussi professeur de musique à l'Université de la Plata, dans la discipline musique populaire.
De la carrera de música popular, en donde se enseñan.
On enseigne ces musiques, mais aussi du folklore argentin et latino-américain,
rock y cumbia,
du rock et de la cumbia. Dans chaque quartier, il y a des festivals où l'on entend des nouvelles manières de composer et de jouer le tango. Dans ces festivals, il y a des hommages à des vieux musiciens de tango, mais il y a surtout la nouvelle chanson tanguera et de nouvelles propositions qui représentent le tango qu'on fait aujourd'hui à Buenos Aires.
Entre les années 60-90 du dernier siècle, le tango était en quelque sorte en décadence. Pour ma génération, le tango était, bon, il fallait laisser ça en arrière, c'est une histoire machiste. Mais heureusement, on a retrouvé cette tradition, on l'a reprise en quelque sorte. Parce que le tango, c'est une grande musique, une grande poésie. Vous voyez, le tango avec le jazz et actuellement le rock, c'est la seule musique, la seule poésie réellement populaire, d'origine populaire, universelle.
Mercredi 18 novembre 2015. quartier de Almagro. Marta del Pino, de la Orquesta Fernández Fierro.
Estamos en el Club Atlético Fernández Fierro, CAF.
Nous sommes au club athlétique Fernández Fierro au CAF, dans le quartier Abasto de Buenos Aires. Il faut savoir que ce lieu est une coopérative. Nous l'avons créé et on le fait vivre sans un sponsor, sans une marque, sans rien. On est 15 personnes. On peint, on dispose des éclairages. L'un de nous se charge du web. Un autre des tournées nationales ou internationales. Un autre enfin des taxes et des impôts. Dans ce club, chaque mercredi, il y a une représentation de l'orchestre. Les jeudis, vendredis et samedis, il y a des représentations d'autres groupes de tango, de folklore, de jazz. Tous sont des jeunes formations indépendantes. Ce n'est pas du tango pour touristes. C'est du tango punk.
Je suis Julieta, la chanteuse de l'orchestre. L'orchestre existe depuis longtemps, mais moi j'y suis depuis à peine 2 ans. C'est une fierté et un privilège. C'est du tango, mais quel que soit l'amour qu'on a pour ce genre de musique, on veut le faire évoluer pour qu'il continue à vivre. Comme nous sommes d'une autre génération, née avec le rock, alors ce sont des compositions nouvelles, avec des paroles écrites par des musiciens de l'orchestre ou des poètes contemporains.
Son letras nuevas de músicos de la orquesta o de.
Certains viennent du rock, d'autres du tango. C'est pourquoi on dit que ce sont des nouveaux tangos.
Con lo cual, digamos que son tangos nuevos.
Très nerveux, très excité. Ce n'est pas très facile de se déplacer et de comprendre. Quand le mouvement cesse et on commence à marcher dans la rue et on commence à regarder les façades des bâtiments et tout ça, il y a aussi quelque chose qui émerge et qui fait une espèce de rythme secret aussi qu'on peut, percevoir. Si on est prêt à le percevoir, si on veut regarder, les gens, la plupart du temps, ne veulent pas regarder. Les gens sont bloqués pendant toute leur vie. Il y a des gens qui, pendant toute leur vie, n'ont rien vu et ne veulent rien voir. Tandis que les autres qui veulent voir, voient des choses de ces gens. Alors, c'est une espèce de palpitation qui possède, qui a cette ville, et que disons, constitue sa marque peut-être. C'est qui fait son attrait même sans en être conscient. Même sans en être conscient. C'est le charme qu'il peut avoir et qui explique, par exemple, qu'il y a pas mal d'étrangers qui considèrent qu'il y a une vie possible ici, par opposition à la vie qu'ils mènent dans leur propre ville de résidence. Hein.
Des bus un peu, des motos. Voilà, c'est
mercredi 18 novembre 2015, quartier de Recoleta, Plaza Francia. Roberto Plate, scénographe et plasticien. argentin de Paris, de passage à Buenos Aires.
Eh bien, je suis né ici, je suis argentin, je suis né en 40. Eh bien, je fais mes études en Europe jusqu'à 65. Après, je rentre à Buenos Aires et de retour. Et là, je participe à plusieurs expositions, installations. C'est la décennie des 60, hein, et qui était très, très bien ici, je crois, dans le monde entier. En France, c'était 68. Hein. Et alors, je t'ai invité à une exposition qui s'appelle Expérience 68. 68, et j'ai une œuvre qui c'était très simple, c'était simplement deux portes avec la signalisation, la silhouette des dames et caballeros.
Ah oui, comme les portes dans les toilettes.
Les toilettes, voilà, avec l'intention d'être invisible, disons, dans l'exposition. Et comme anecdote, je raconte, mon père était voir l'exposition, il me dit, je n'ai pas trouvé l'œuvre. Mais on pouvait s'isoler. Alors, comme on est en pleine dictature, et les gens se sont manifestés, ils ont eu une décharge émotionnelle, disons. Et le lendemain, c'était censuré. Avec une police, avec une frayette, de chaque côté de la porte. Et tous les autres participants, ils ont mis les œuvres de la rue, ils ont fait un feu. Mais à partir de là, alors là, je pars à Paris. Et à partir de 69 jusqu'à maintenant, je suis à Paris. Et là, je reviens une fois par an. J'aime beaucoup le concert.
Pour travailler ou pour vous prendre
et je fais une exposition, je fais plusieurs fois des scénographies. Et la dernière, c'était Jeanne d'Arc Boucher, Honegger et Claudel. Et sinon, c'est pour une exposition, et voilà, cette fois-là, c'est pour le musée.
Quartier de San Telmo, bar et l'Hippopotamo. Carlos Gaveta, journaliste.
J'ai vécu 9 ans en France, 9 ans en Espagne, une année au Mexique et une année en Italie.
Et tu es revenu à Buenos Aires. Donc qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce qui t'a poussé à volver, à rentrer?
D'abord, c'est mon pays. J'ai quitté l'Argentine en 76, fuyant la dictature militaire. Ma compagne de l'époque a été kidnappée et assassinée, donc il a fallu... D'ailleurs, 110 journalistes ont été ou bien kidnappés ou bien assassinés, et plus de 500 ont été emprisonnés, etc. La persécution contre les journalistes, contre tout le monde d'ailleurs, a été énorme. Alors, j'ai quitté, à cause de la dictature, l'Argentine en 76. Je suis rentré tout de suite après la démocratie en 84. À l'époque, j'ai travaillé à l'agence France-Presse à Paris et on m'a offert venir diriger un hebdo qui s'est appelé El Periodista de Buenos Aires, le journaliste de Buenos Aires, qui était l'hebdomadaire de la transition démocratique, en quelque sorte. Alors, à l'époque, je me souviens, je travaillais à l'AFP. Vous savez, l'AFP, c'est en quelque sorte un ministère. Hein. À présent, je serai en retraite, avec un très bon salaire, etc., etc. Mais à l'époque, j'avais 40 ans. On était en train de m'offrir une aventure intéressante dans mon pays qui avait récupéré la démocratie. Je me suis dit, non, je ne reste pas à l'AFP. Je me jette dans l'inconnu et je suis rentré. Et ça s'est plutôt bien passé.
Mardi 17 novembre 2015, quartier de San Telmo, musée d'art moderne. La Menesunda, que l'on peut traduire par « situation embarrassante », est une installation qui propose un parcours initiatique dans une succession de 11 espaces conçus pour éveiller les sens des visiteurs. Ce parcours interactif transforme le visiteur en acteur d'une expérience artistique. Une balade ludique, drôle et déroutante. On y trouve un tunnel de néon avec 10 appareils de télévision allumés, une chambre occupée par un couple réel couché dans son lit, un boudoir rose en forme de tête féminine où une hôtesse vous propose un massage ou une séance de maquillage. Un espace imprégné de l'odeur d'un cabinet dentaire et où l'on entend une horloge parlante. Un espace occupé par un vieux frigo où les visiteurs soudain ressentent la froide température. La Menesunda, mémorable installation créée par Marta Minujín en 1965 à Buenos Aires à l'Instituto di Tella, a été reconstituée par l'artiste en 2015 au Musée d'art moderne de la ville. Marta Minujín, plasticienne.
Ici, à l'intérieur de la Menesunda, c'est complètement... Tous les compartiments représentent une par une Buenos Aires. Le premier, c'est le tunnel de néon. Que c'est la rue Lavalle, où les gens vont et boivent et tout ça. Le deuxième, c'est une chambre à coucher. C'est une situation embarrassante parce que tu ne sais pas, quand tu vois les gens dans le lit, tu penses que tu déranges. Après, le visage de la femme qu'on voit dans le miroir, ça représente une femme vraiment porteña. Et après, quand tu trouves... La Ciénaga, il s'agit de tous les problèmes que nous avons avec le trafic, un endroit où tu es complètement saturé de choses qui arrivent à Buenos Aires, toujours politiquement, et à la fin, il rentre tous les intestins, c'est tous les choses, c'est tous les pensées des gens. Comme ça, après tu as le téléphone, où tu dois entendre le temps qui passe. Après ça, tu passes à la frigidaire, ou alors tu es surprise, mais c'est un espace de réflexion pour connaître plus où tu es. Qu'est-ce que c'est la ville de Buenos Aires? C'est toute la ville de Buenos Aires, c'est comprimé à la Menesunda. Et après ça, tu as la forêt de forme, où tu dois toucher différentes matières pour rentrer à la fin au milieu, que c'est l'obélisque. Ça, c'est comme être au centre de la ville, à l'ombligo, que c'est Buenos Aires.
Donc là, quand on est posé à l'intérieur, c'est comme si nous, on est l'obélisque.
Claro, si toi, tu es l'obélisque. Mais... Et ça, on l'a fait il y a 50 ans, mais maintenant, c'est absolument contemporain, parce que Buenos Aires, c'est toujours la même chose. C'est le même qu'il y a 50 ans, parce que ceux qui font la ville sont les gens. No? Alors la calle Lavalle, ça continue, la calle Florida, c'est pas la même chose, il y a de nouveaux quartiers, mais de toute façon, la façon de vivre de Buenos Aires, c'est toujours la même. On vit la nuit, parce que Buenos Aires est une ville où ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup de créativité, et il y a beaucoup de... Je crois que de Latinoamérica, c'est la plus grande, où les gens ont envie de faire des choses, et ils le font. Il y a 300 salles de théâtre, 300. Il y a beaucoup de cinéma qui ont fait les gens, il y a beaucoup de poètes, beaucoup d'artistes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de créativité.
Quartier de Villa Crespo, dans son atelier, Leandro Erlich, plasticien.
Je suis né à Buenos Aires et j'ai grandi à Buenos Aires. J'avais travaillé et j'avais fait plein d'expos à Buenos Aires. En 1997, je suis parti à l'étranger. J'ai vécu aux États-Unis. Après, j'ai passé 5 ans à Paris et je suis rentré il n'y a pas longtemps, déjà 7 ans. Je pense que ça nous inspire beaucoup les choses qui manquent, les faits que traditionnellement, maintenant ça commence à changer, il y a beaucoup plus d'aide, et beaucoup plus d'intérêt au niveau institutionnel pour la culture. Mais je dirais, au début, quand j'avais commencé à Buenos Aires, il n'y avait pas assez d'institutions pour la culture. Et ça nous pousse à faire. Et si les moyens ne sont pas suffisants, on fait ça qu'on peut avec les moyens qu'on a. Il y a une expression que tu connais, c'est « lo atamos con alambre ». C'est une expression très, très argentine.
On l'attache avec du fil de fer.
Voilà, on l'attache avec un fil de fer.
C'est-à-dire qu'on se débrouille avec les moyens du bord.
Ouais.
On pourrait la traduire comme ça, l'expression. Ouais.
Écoutez, à présent, Buenos Aires, c'est une ville qu'on pourrait dire en blanc et noir. Pourquoi en blanc et noir ? Parce que le blanc, ce serait l'activité artistique, théâtrale, cinéma, littérature, science. Je crois que c'est pour cela que ce pays tienne. Parce que maintenant, on va parler du noir. Et c'est un pays en pleine décadence sur le plan politique, économique et social. Hein. En exemple, l'Argentine produit tous les ans de la nourriture pour 250 millions de personnes dans une année normale. On en est 40 millions sur le territoire national et pourtant on trouve des gens, et beaucoup de gens, la nuit, en train de fouiller dans les ordures pour se nourrir. Ici même, à 1500 mètres d'ici, on a ce qu'on appelle une grande ville, Villa Miseria, un bidonville énorme, et ça se trouve à Retiro, pas loin d'ici, tout autour de la gare d'autobus.
Le projet de l'obélisque, c'était titré « La démocratie del símbolo ». J'avais parlé de ce projet avec les conducteurs de taxi, avec les gens qui marchaient dans la rue, les touristes. Voilà, partager et ouvrir ce dialogue avec la ville. C'est une réflexion à partir de... on entend des hélicoptères qui passent. Ça fait partie des sons de Buenos Aires aussi. Alors, l'obélisque, le projet de l'obélisque, c'est une réflexion à partir des monuments emblématiques des villes en général. Si on pense à la Tour Eiffel, on pense à la Statue of Liberty, tous ces monuments emblématiques des grandes villes, le public peut rentrer dedans, monter. C'est une action d'appropriation sur ça qui s'est dans les domaines publics. Et l'obélisque à Buenos Aires, c'était construit à Buenos Aires en 1936 et jamais a été conçu pour être visité. Il n'y a même pas un ascenseur dedans. Mais en même temps, tout le monde connaît l'obélisque. On se donne des rendez-vous à l'obélisque. C'est l'endroit où les gens se retrouvent si les teams de football a gagné un match, s'il y a une manifestation de l'ordre politique. Et pour moi, c'était toujours, et je pense que c'est pas seulement pour moi, mais pour les porteños, c'était un mystère de l'ordre collectif. Imaginez monter au sommet de l'obélisque. Et à partir de ça, j'avais imaginé cette installation que c'était de construire une réplique à l'identique du sommet de l'obélisque pour les faire descendre par terre, au sol. J'avais installé un artefact pour cacher les sommets du vrai obélisque et la réplique de l'obélisque a été installée sur l'esplanade du musée Malba. D'un jour à un autre, en fait, les gens ont retrouvé qu'il manquait les sommets de l'obélisque. J'ai entendu des gens qui disaient prendre de la corruption, disait, mais regardez, dans ce pays, même ils volent même la pointe de l'obélisque. Et pour moi, c'est important comment on gère et comment on perçoit l'espace public en général. Est-ce que l'espace public, c'est un espace qui nous appartient à tous, ou l'espace public, c'est un espace qui appartient à personne?
Quiero liberar a todos mis compañeros.
Esto fue solo una parte de nuestra historia, en la cual todos tenemos algo. si la plaza un escenario, si quiere entrar, lo invitamos a pasar.
Excelente, 776, ¿qué tipo sería? Si te lo confirmo.
Así donde duele cantamos, así donde duele reímos.
Alma mate ya parte, así como vino, se va, andando las calles del barrio, buscando en qué espejo mirarse.
Intentando cruzar barreras que permanecen cerradas por muchos. Que vagan por Plaza Flores con su bala rota.
Y aunque sigan demoliendo ilusiones, recordaremos, recordaremos todo el tiempo. No olvidaremos nada.
Villemonde, Buenos Aires. Mi Buenos Aires querido. Avec Maxime Seger, Claudio Tolcachir, Graciela Valdejones, Alejandro Schaab, Carlos Gaveta, Juan Ortiz de Zárate, Noé Gitric, Alejandro Poleman, Marta del Pino y Julieta Lazo, Roberto Platé, Marta Minujín, Leandro Berlich. Traducción, Daniel Manès. Texte lu par Garance Clavel, Laurent Lederer. Merci à l'Institut français d'Argentine, l'ambassade d'Argentine en France et Air France. Une émission d'Andrea Cohen réalisée par Gaël Gillon. Prise de son et mixage, Benjamin Thuot. Coordination, Catherine Libert.
Continue sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter éternellement en podcast Villemonde, Buenos Aires et toutes nos escales à travers le monde. Voyage au long cours dimanche prochain après les rives du fleuve Rio de la Plata, Villemonde jette l'ancre vers la mer Jaune à Séoul, escale dans l'encre des écrivains coréens. Premier chapitre, première escale Séoul-Villemonde dimanche 20 mars à 15h. En plein Salon du Livre de Paris, où la Corée du Sud est le pays invité. Séoul, à livres ouverts, une littérature de cicatrices.